Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour. J'ai mis une petite information sur la première diapositive. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient avoir des informations sur certaines activités de la chaire, vous ne serez pas bombardés d'informations, c'est 3 ou 4 messages éventuellement par an. Mais donc ceux d'entre vous qui souhaiteraient recevoir sur la liste de diffusion des informations de la chaire, vous pouvez écrire pour y être inscrit à Sylvie Sportouche qui assure mon secrétariat. J'avais aussi une dette vis-à-vis d'un d'entre vous hier qui, la semaine dernière, est venu me demander où Weber faisait-il cette critique de l'économie, dans quel texte, est-ce que j'étais bien sûr de mes sources. Donc évidemment, on ne peut pas me dire une chose pareille sans que ça pique immédiatement. Donc je prends la citation qui est dans son texte sur la neutralité axiologique, où il aborde la question de la théorie économique en disant qu'elle a été, elle aussi, victime du phénomène typique de la confusion des problèmes. La confusion, c'est entre le registre des valeurs et le registre des faits de la description. En effet, la théorie purement économique, en son sens individualiste, politiquement et moralement neutre, qui a été un moyen méthodologique indispensable et le restera probablement toujours, fut conçue par l'école radicale du libéralisme comme le reflet intégral de la réalité naturelle, c'est-à-dire de la réalité non altérée par la sottise humaine et pour cette raison comme ayant le caractère d'un devoir-être. C'est du Weber, vous savez, Weber, c'est pas Stendhal, hein, donc c'est toujours un peu long. Mais enfin, on voit bien ce qu'il veut dire, d'ailleurs ça va dans le prolongement de choses que nous avions étudiées les années précédentes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'économie politique se donne comme à la fois un lieu de description et de prescription du monde, ça crée la confusion. Et que sa méthode, l'analyse des intérêts, c'est un idéal type. Autrement dit, c'est la phrase la plus claire, on lui a attribué la validité d'un idéal dans la sphère des valeurs au lieu d'un idéal type à utiliser au cours d'une recherche empirique sur l'étant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Max Weber, il y a cette idée que la sociologie procède et les sciences sociales en faisant des sortes de modélisations qu'il appelle des idéotypes, mais qu'il faut se garder de confondre avec les réalités parce qu'elles sont un instrument de mesure entre l'écart de la réalité et l'idéal type. Et si on prend l'idéal type pour un idéal à réaliser dans le monde, alors on confond les choses. Donc c'est une critique assez radicale de la prétention de la science économique à prescrire des comportements ou à donner des consignes politiques. Bien, je ferme cette parenthèse, je vous renvoie à la lecture c'est dans les essais sur la théorie de la science c'est une très très grande richesse. Donc nous étions quittés la semaine dernière sur une évocation du devoir de solidarité dans la tradition juive et c'était à propos de l'interprétation vétérotestamentaire de la richesse, puisque dans l'Ancien Testament, la richesse apparaît toujours comme un signe d'élection divine. Et cette façon de voir se retrouve dans le calvinisme. C'est ainsi que Calvin écrit la chose suivante: « Dieu donne abondamment aux siens de quoi bien faire aux autres, mais les méchants sont toujours affamés tellement que la pauvreté les induit à user de fraude et de rapine. » Fin de subvention. Donc, les méchants sont condamnés par Dieu à la pauvreté. Et donc, vous voyez ce que ça suggère, c'est que les pauvres ne sont pas gentils. On peut dire ça comme ça. Alors, sans doute, les riches doivent-ils bien faire aux autres, conformément aux prescriptions évangéliques. Mais cela ne signifie nullement pour Calvin qu'ils soient au service des pauvres. C'est la différence avec Bossuet, que nous avons évoqué la semaine dernière. Les pauvres doivent leur être reconnaissants de cette générosité et doivent se garder d'y voir l'observation d'une obligation naturelle entre frères. Alors, notons bien, c'était pas Calvin était un homme austère, vous le savez, et ses propos le sont aussi. Notons bien que ce titre de fraternité ne doit point faire enorgueillir ceux qui sont contemptibles, selon le monde et qui sont de petit état, qui n'aillent point à léguer « celui-là est mon frère ». Nous sommes frères, mais cela n'empêche pas que l'un soit maître et l'autre valet, car cette union sacrée que Dieu a mise entre nous, je dis de fraternité, cela n'empêche pas qu'il y ait l'un inférieur, l'autre supérieur, qu'il faut qu'en telle condition que Dieu nous appelle, nous demeurions paisibles. S'il faut rester paisible, s'il faut acquiescer à l'ordre social, aussi injuste qu'il puisse paraître, c'est qu'il exprime un ordre divin. Calvin affirme que c'est Dieu qui humilie, c'est Dieu qui hausse. Et selon la thèse fameuse de Max Weber, que nous venons d'évoquer, l'esprit du capitalisme est justement l'héritier de cette tradition qui fait de la richesse la confirmation d'élection divine et porte à assimiler le pauvre au pécheur. C'est un thème qui demeure vivant dans les politiques sociales contemporaines, puisque depuis 30 ans, de nombreuses dispositions ont redonné force juridique à cette idée. L'une des causes essentielles du chômage serait la fainéantise encouragée par des allocations sociales trop généreuses, qu'il conviendrait donc de réduire ou de subordonner à l'acceptation inconditionnelle de la précarité, de la déqualification ou de la flexibilité. Donc, cette façon de concevoir la pauvreté comme, en quelque sorte, une juste punition, c'est toujours heurté avec l'autre vision de la pauvreté comme injustice. En arrachant des masses laborieuses entières aux solidarités traditionnelles pour les plonger dans la misère, la révolution industrielle a rendu une actualité nouvelle à ces questions, en même temps qu'elle les a largement sécularisées. Ce sont ces questions qui ont agité les esprits au XIXe. Est-ce que l'État doit s'interdire d'intervenir dans la distribution des richesses qui seraient le fruit d'un ordre naturel du marché ? Est-il le bras armé de l'exploitation des pauvres que les forçats de la faim, pour employer l'expression de l'international, doivent mettre à bas ? Le monde, je ne vais pas chanter l'international, mais je cite, « Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout ». Ou bien l'État doit-il intervenir pour protéger les travailleurs, comme le recommandera l'encyclique Rerum Novarum. Je vais dire un mot de cette encyclique parce que la doctrine sociale de l'Église catholique, donc qui se définit dans la seconde moitié du XIXe siècle, a inspiré tout un courant politique qui a été très vigoureux jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle. Ça a été le mouvement des chrétiens des démocrates qui a joué un rôle important dans plusieurs pays européens. Quelle est cette doctrine sociale développée par le pape Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum en 1891? Ça commence par une défense des droits. Donc on parle des droits individuels. Ils doivent être religieusement respectés. L'État doit les protéger chez tous les citoyens en prévenant ou en vengeant leurs violations. Donc ça, c'est la règle générale. L'État est là pour garantir les droits, et le premier d'entre eux, le droit de propriété. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'État. L'État doit donc entourer de soins et d'une sollicitude toute particulière les travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général. Si j'ai mis la version latine originale, puisque les encycliques sont encore rédigées en latin, c'est que vous remarquerez un petit décalage dans la traduction, puisque la version latine parle de « cura providentia quae », donc emploie le terme de providence qui ne se retrouve pas dans la version française de l'encyclique. Et dans un très bel ouvrage qu'il a écrit, et que je recommande, d'un jeune collègue qui a écrit cet ouvrage sur État, libéralisme et christianisme, c'est une histoire du principe de solidarité, envisagé à partir de son cette définition en droit européen, eh bien, dans cet ouvrage, Julien Baroche, qui est l'auteur donc, de cette étude, note avec raison que l'encyclique Rerum Novarum ne consacrait pas explicitement l'idée d'État-providence et au contraire qu'elle la critiquait dans sa prétention à substituer l'État à la providence divine, que chacun doit rester à sa place. Et Julien Baroche a parfaitement raison de faire cette remarque, mais on voit bien quand même, à cause de la traduction que je viens de pointer, que ça ne va pas sans contradiction, puisqu'il y a quand même une référence à la notion de providence dans le passage que nous venons de lire. Et la résolution de cette contradiction passe justement par le principe de subsidiarité. C'est ça qui éclaire le principe de l'État. Et c'est une des pierres angulaires de la doctrine sociale de l'Église, et aujourd'hui, officiellement en tout cas, une des pierres angulaires du droit de l'Union européenne. Et ce principe de subsidiarité est expliqué dans l'encyclique Rerum Novarum. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité de ce passage, mais simplement les trois moments les plus importants. Alors, première idée, il est dans l'ordre que ni l'individu ni la famille ne soient absorbés par l'État. Il est juste que l'un et l'autre aient la faculté d'agir avec liberté aussi longtemps que cela n'atteint pas le bien général et ne fait tort à personne. Donc la sphère privée, la sphère de la famille, doit rester hors de l'intrusion de l'État. Les dirigeants, quelle est leur mission ? Eh bien, le salut public n'est pas seulement la loi suprême, mais la cause même et la raison d'être du pouvoir civil. C'est-à-dire ce qui justifie l'existence d'un pouvoir politique, c'est la poursuite de ce qui est appelé ici le salut public. Et donc, en fait, c'est une notion qui est dérivée de la notion de bien commun, comme on va le revoir plus tard. Donc, on a d'un côté l'obligation de respecter la sphère privée, de l'autre, l'obligation qui pèse sur les dirigeants de poursuivre le bien public. Et c'est de cela que s'évince le principe de subsidiarité. Si les intérêts généraux ou l'intérêt d'une classe en particulier se trouvent lésés ou simplement menacés, et s'il est impossible d'y remédier ou d'y obvier autrement, il faut de toute nécessité recourir à l'autorité publique. Donc, vous voyez, l'intervention de l'autorité publique ne se justifie que de manière subsidiaire lorsqu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger les intérêts, soit l'intérêt général, soit l'intérêt d'une classe en particulier. Alors, ces questions ont été au cœur des disputes relatives à ce qu'on nommait au XIXe siècle la question sociale, et si je m'y attarde, c'est parce que ce sont elles qui ont conduit, pour la première fois, à l'apparition de la notion de justice sociale. C'est dans ce contexte que la notion de justice sociale va être formulée pour la première fois. Il semble qu'elle ait été formulée pour la première fois par un jésuite, dont vous allez voir le visage austère, qui s'appelait Luigi Taparelli d'Azeglio, qui, donc, ses dates, c'est 1793-1862. Et Taparelli est l'un des premiers théoriciens de l'idée moderne de subsidiarité. Et c'est lui qui avance pour la première fois la notion de justice sociale dans un essai sur les principes philosophiques de l'économie politique qui est publié en feuilleton de 1856 à 1862 et qui a fait l'objet d'une traduction française dans les années 40. Donc, ce qu'il cherche à faire avec la subsidiarité, c'est à trouver une voie moyenne entre le libéralisme absolu du capitalisme du XIXe siècle et puis la menace socialiste. C'est ça l'idée. Et la voie moyenne, c'est le principe de subsidiarité qui la donne. Cela dit, ce n'est qu'une des origines de la notion. Quelques années plus tard, de façon a priori plus surprenante, la notion de justice sociale est mise en avant par l'un des plus grands représentants et des plus profonds aussi de la pensée libérale au XIXe siècle, l'économiste et philosophe John Stuart Mill. En 1861, il écrit ceci dans son livre « L'utilitarisme ». La société, doit traiter également bien tous ceux qui ont également bien mérité d'elle, c'est-à-dire qui ont bien mérité également d'une manière absolue. Voici le principe abstrait le plus élevé de la justice sociale et distributive. C'est vers lui que doivent tendre les institutions et les efforts des citoyens vertueux. Cette première formulation de la justice sociale, sous la plume donc, du plus grand théoricien de l'utilitarisme, lui a valu post-mortem les foudres de Hayek. Selon ce dernier, vous retrouvez cette citation dans un livre que j'ai déjà cité à plusieurs reprises de Hayek, « Le mirage de la justice sociale », selon Hayek, qui par ailleurs a une grande admiration évidemment pour Stuart Mill, Mill ne se serait pas rendu compte qu'en appliquant ainsi la notion de justice à l'organisation de la société au lieu de la cantonner aux conduites individuelles, il se faisait le fourrier du communisme. Je n'exagère pas, puisque ce qu'écrit Hayek, c'est que cette conception de justice sociale nous conduit tout droit au socialisme le plus complet. Donc, à son corps défendant, si je puis dire, Stuart Mill aurait été un fourrier du socialisme le plus complet. Ça, ce sont les origines les plus lointaines où on peut repérer l'apparition de la notion de justice sociale. Le premier texte de grande ampleur qui va essayer de développer cette notion, on le doit à un philosophe français qui s'est beaucoup intéressé au droit. Il a écrit un livre de philosophie du droit qui s'appelle Alfred Fouillet et qui publie en 1899 dans la Revue des Deux Mondes un article intitulé « L'idée de justice sociale d'après les écoles contemporaines ». Alors Fouillet, c'est un philosophe dont l'importance a été perdue de vue, enfin, sauf par les spécialistes, alors qu'en réalité, il est à l'instar de Durkheim ou de Léon Bourgeois, qui est plus connu pour son livre sur le solidarisme, c'est un de ceux qui ont contribué à renouveler la pensée politique à la fin du XIXe siècle et à poser les bases théoriques de ce que notre Constitution appelle la République sociale. En général, les juristes ne connaissent guère Fouillet que pour sa formule « qui dit contractuel dit juste ». Mais nous allons voir, cette formule a été soigneusement extraite de son contexte pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle signifiait pour son auteur. C'est très intéressant de relire Fouillet. À la base de son travail, il y a une réflexion, nous sommes dans la seconde moitié du 19e, la confiance dans la science règne, le positivisme scientifique règne, et ce qui tracasse Fouillet, c'est comment on peut concilier l'idée du déterminisme scientifique avec la liberté humaine. Comment penser le rapport entre ces deux données? Ce rapport, il propose de le penser en termes, c'est son concept majeur à Fouillet, d'idée-force, c'est-à-dire en tenant compte de la capacité de certaines idées d'exercer une action transformatrice du réel. Toute idée conçue par nous, écrit-il, a une action sur nous et tend à se réaliser par cela même qu'elle est conçue. Penser une chose, dit Fouillet, c'est déjà la commencer. Et il prend l'exemple, il dit on ne peut pas par exemple avoir l'idée d'une mélodie, si je vous dis pensez à la Marseillaise, sans commencer à la chanter intérieurement. Et si vous voulez avoir d'autres pensées, je peux dire, si vous pensez à un verre de Bordeaux, vous commencez à avoir la gorge sèche. Bon. Alors, mais là on n'est pas dans l'univers des idées. Dans l'univers des idées, il en existe, dit Fouillet, certaines, comme la liberté, la démocratie ou le droit, qui expriment des idéaux à réaliser dans l'organisation de la société humaine. Et ce sont ces idées exprimant des idéaux à réaliser qu'il appelle des idées-force, car ces idées sont en elles-mêmes des moteurs intellectuels de l'action individuelle et collective. Et il a cette très belle définition du droit dans son ouvrage « L'idée moderne du droit », donc première édition 1878, il écrit « Le droit est précisément une idée tournée vers l'avenir. Il est, pour ainsi dire, le respect de l'avenir dans le présent même, sans compter qu'il est aussi, peut-être, le respect de ce qui est supérieur aux considérations de temps. C'est une vision qu'on pourrait dire très idéaliste du droit, mais enfin, c'est cohérent dans le cadre de sa théorie des idées-forces. Dans cet article que je viens de citer sur la justice sociale, et sur lequel on va s'attarder pas trop longtemps, rassurez-vous, Fouillé commence par dresser une typologie des cultures nationales, et notamment des cultures juridiques et politiques, une typologie qu'il avait déjà esquissée dans son livre sur l'idée moderne de droit. Évidemment, il s'intéresse, on est à la fin du 19e, le monde se réduit, l'horizon du monde se réduit à l'Europe, et il distingue trois théories qui, selon lui, se partagent la pensée et l'action dans cette Europe de la fin du 19e siècle. La première, écrit-il, qui pourrait s'appeler le naturalisme individualiste, a fleuri surtout en Angleterre, chez les économistes, et tend à l'omnipotence de l'individu. La seconde, qui est le naturalisme collectiviste, est surtout allemande. Ce système va jusqu'à s'intituler matérialiste et tend à l'omnipotence de la société. La troisième est l'idéalisme moral et social, qui est surtout français et qui, par l'extension de l'idée de justice, poursuit le développement simultané de l'individu et de l'État. Donc, Fouillé n'est pas dans la période actuelle d'une France crucifiée entre le modèle anglais et le modèle allemand, ne sachant que donner de la tête et passant tous les trois ans d'une référence à l'Allemagne à une référence au monde anglo-américain. Il campe sur une confiance dans une tradition intellectuelle, dans un modèle social proprement français. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par le naturalisme économiste ? Eh bien, ça consiste à ramener toutes les lois à des lois naturelles, et donc à nier qu'on puisse modifier ces lois et à vouloir imposer à la société un prétendu ordre naturel. Vous retrouvez ici le problème de Fouillé, comment je concilie liberté humaine avec déterminisme. Il dit que le naturalisme économiste consiste à tout rabattre sur du déterminisme. Il y aurait des lois inscrites dans la nature et il n'y a pas de place pour des libertés humaines. Il faut obéir à ces lois. Il appelle ça l'adoration des lois naturelles de la concurrence. Et cette adoration des lois naturelles de la concurrence rend, dit Fouillé, la plupart des économistes indifférents à ce qu'une partie de la population soit décimée par la misère. Ce n'est pas un problème, puisque c'est l'expression de lois naturelles. Et Fouillé cite ici Ricardo, Malthus et aussi Herbert Spencer. Alors, Spencer, vous savez peut-être, c'est le père du darwinisme social et c'est aussi l'un des auteurs révérés des doctrines libérales libertaires contemporaines. Alors, vous allez voir, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire, puisque Spencer écrit ceci: « La pauvreté des incapables, les détresses des imprudents, l'élimination des paresseux, cette poussée des forts qui met de côté les faibles et en réduit un si grand nombre à la misère » sont les résultats nécessaires d'une loi générale, éclairée et bienfaisante, la loi de sélection naturelle. Donc vous voyez ici, il y a quand même un déplacement, en même temps qu'une continuité avec la pensée de Calvin. Ils méritent leur sort. Mais enfin, Calvin laissait quand même entrevoir un paradis, disait qu'il fallait quand même faire du bien aux pauvres. Là, non, parce que c'est une loi bienfaisante qui va produire la sélection naturelle. Il y a énormément de citations du même acabit dans l'œuvre de Spencer. Et évidemment, Fouillé s'insurge contre cette conception de la justice qui, au fond, ne serait rien d'autre que la force et condamnerait la société humaine à devenir une jungle. Et donc, dit Fouillé, à la concurrence vitale, ce que la civilisation doit substituer, c'est une concurrence morale. Et dit-il, au jeu des libertés conçues comme simple force doit se substituer leur solidarité sous une loi commune de liberté et d'égalité, solidarité dont la reconnaissance constitue la justice sociale. Fin de citation. Vous voyez, c'est comme ça qu'apparaît la notion de justice sociale, comme jeu de concurrence morale substitué à la concurrence commerciale, à la concurrence vitale. Et vous notez ici l'association étroite et même l'identification de la justice sociale et de la solidarité. Il faut le noter car cette association était promise à une longue histoire. Donc ça, c'est la critique. Fouillé commence par tourner sa critique du côté britannique, enfin ce qu'il appelle donc ce premier type de naturalisme individualiste. Mais il n'est pas plus tendre avec ce qu'il appelle le matérialisme collectiviste, donc qui est une autre forme de naturalisme. Alors là, il vise l'Allemagne, où il voit un enfant bâtard, je prends l'expression, du naturalisme économiste. Parce que pour lui, l'enfant légitime, c'est l'individualisme britannique, la lutte pour la vie, la sélection. L'enfant bâtard, c'est le modèle allemand qui, comme l'économisme individualiste, prétend être amoral et récuse toute capacité des idées de peser sur l'avenir des sociétés humaines. C'est l'idée d'un set écrit. Je dirais que la formulation moderne, il n'y a pas d'alternative. Bon. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut s'y soumettre. Alors, il dit ça, c'est le point commun. Et cet avenir serait inéluctable, déterminé par la marche naturelle des faits, en l'occurrence par la marche de l'histoire, dans le cas du matérialisme collectiviste. Donc, ça, c'est là, évidemment, en vue le marxisme. Et qui débouchera, pour eux, simplement, sur une révolution, dénouement inévitable de la lutte des classes. Or, dit Fouillé, la lutte des classes érigée en loi de l'histoire par le marxisme, comme la concurrence des individus l'avait été par les libéraux, selon Fouillé, ce n'est, je cite, que la guerre transportée à l'intérieur. Donc il dit, au fond, on est en présence de gens, ils croient tous qu'il y a des lois naturelles qui déterminent la vie en société. Pour les uns, c'est la lutte entre les individus. Pour l'autre, les autres, c'est la lutte entre les classes. Mais dans les deux cas, ce que l'on est en train de penser, ce n'est rien d'autre que la guerre transportée à l'intérieur de la société, des sociétés humaines. Et c'est à ce point, pour se dégager de ces deux rejetons du naturalisme, que Fouillé mobilise son concept d'idée-force et avance l'idée de justice sociale. Il veut en faire une idée-force. Alors, il a un dialogue avec Marx. Il dit à Marx, qui affirme que le moulin à bras a donné la société féodale et le moulin à vapeur la société capitaliste, c'est un passage très connu de Marx, Fouillé rétorque que l'idée des moulins a germé dans l'esprit des hommes avant de transformer les rapports sociaux. Il a d'abord fallu penser le moulin à bras ou fallu penser le moulin à vapeur. Donc, c'est autrement dit Fouillé, ce sont toujours les idées qui mènent le monde humain. Et donc, les idées-forces doivent guider la réforme des institutions pour tenir compte des réalités du monde industriel. Et ces idées sont celles de justice et de solidarité, dont la combinaison débouche sur celle de justice sociale. Et là, on a le passage clé de l'article. Il y a une justice de liberté qui veut qu'on le respecte le développement de ma personnalité individuelle. Il y a une justice d'égalité qui veut que les hommes les plus inégaux par ailleurs soient traités de même pour les actes de même valeur. Mais il y a aussi une justice de solidarité trop méconnue qui veut que, faisant partie d'un même tout, réagissant l'un sur l'autre, ne pouvant agir dans la vie sociale sans que mes actions aient une répercussion en autrui, je prenne en considération le bien des autres en même temps que mon bien propre. C'est cette justice de solidarité, dont la charité pure était une application encore trop vague, arbitraire et incertaine, et qui, dans nos sociétés modernes, sous le nom de justice sociale, doit aboutir à des obligations précises. Donc là, on a réellement une première tentative non seulement de théorisation, mais de, j'allais dire, de programme, c'est-à-dire de comment on pourrait mettre la notion de justice sociale à la base d'un programme politique. En fait, Fouillé a tardé à se rallier à l'idée de solidarité. Bon, il le fait dans cet article, mais il a préféré pendant longtemps s'accrocher à la notion de fraternité. Mais au fond, il s'agissait toujours pour lui de se démarquer du pur individualisme, sans céder pour autant au collectivisme. Et la voie juste consiste à voir dans la société ce qu'il appelle un organisme contractuel. Alors, vous voyez aussi, c'est tout à fait typique aussi de cette période d'essayer de combiner la morale, l'humanisme avec le déterminisme scientifique. On a le modèle organiciste, mais c'est contractuel, donc il y a la volonté humaine qui est capable de remodeler cet organisme. Et dans cet organisme contractuel s'exprime à la fois la volonté des individus et leur indépendance objective, de même que dans un organisme biologique, il y a interdépendance des organes, ça c'est la vieille image, la vieille métaphore biologique de la société, mais il y a une place pour la volonté, une volonté d'organiser la société selon un certain modèle. Et c'est à la lumière de l'idéal républicain de fraternité qu'il avait employé 20 ans plus tôt, justement cette fameuse formule qui dit contractuel dit juste, et nullement pour s'opposer à toute intervention de l'État. Voilà le passage où il le fait, c'est à la fin de son livre sur la science sociale contemporaine. En définitive, l'idée d'un organisme contractuel est identique à celle d'une fraternité réglée par la justice, car qui dit organisme dit fraternité, et qui dit contractuel dit juste. Donc vous voyez, la formule qui dit contractuel dit juste n'était pas du tout, sous la plume de Fouillé, une exaltation de l'individualisme et d'un contractualisme. C'est pas le contractualisme entre individus qui doit régler la société, mais il faut penser la société tout entière sur le modèle d'un organisme contractuel. Alors, cette justice sociale justifie une intervention de l'État pour assurer concrètement la liberté et l'égalité des individus, notamment dans le contrat de travail, mais aussi en matière d'instruction, et plus généralement, dit Fouillé, je cite, « dans tous les cas où l'initiative privée et l'association libre se montrent radicalement impuissantes à assurer l'exercice des droits individuels ou à accomplir une œuvre indispensable de justice sociale. » Donc, fin de citation. On retrouve ici la subsidiarité. Sans qu'elle soit... Fouillé ne se réfère pas à la doctrine sociale de l'Église. Mais on retrouve la même idée. C'est dans les cas où l'initiative privée est radicalement impuissante qu'il faut accomplir une œuvre de justice sociale. Et ça incombe à ce moment-là à la puissance publique. Et cette, on débouche ainsi à une conception de la liberté comme liberté concrète, c'est-à-dire comme pouvoir effectif et non comme simple suppression d'obstacles extérieurs. Alors ça aussi, c'est une idée qui va avoir de l'avenir, enfin, de penser la liberté pas simplement comme une suppression d'obstacles, mais comme un pouvoir effectif d'agir. Et nous la retrouverons, soit aujourd'hui, soit lors du prochain cours, sous la plume d'Amartya Sen en particulier, qu'il appelle les capabilities, ou capacités. Et l'égalité, elle aussi, doit être une égalité réelle et non pas simplement nominale de tous ceux qui concourent à l'œuvre de la production. La justice sociale est par ailleurs autant tournée pour Fouillé vers l'avenir que vers le passé. Car, écrit-il, l'idée de solidarité ne nous lie pas seulement au passé par des devoirs de justice réparative, elle nous lie à l'avenir par des devoirs de justice de prévention. Et là aussi, cette idée est très féconde sur les institutions d'État social, en particulier pour tout ce qui concerne les régimes de retraite. C'est-à-dire, il y a une solidarité aussi entre les générations. Là, il y a une rupture avec ce qu'était l'horizon du droit civil, est un horizon d'immortel, si je puis dire, puisque si vous mourrez, votre héritier prend votre place immédiatement. Donc, les sujets de droit sont quasiment immortels. Donc, Donc il y a des opérations logiques de circulation des biens, mais la profondeur générationnelle, la chaîne générationnelle, disparaît de l'horizon du droit des obligations. Et elle est réapparue par le droit social. Le droit social a fait réapparaître donc comment on pense les liens entre générations à une échelle collective et pas simplement dans le droit de l'héritage, justement. Et c'est là que la justice sociale doit se traduire par une solidarité, donc quelque chose qui est tourné vers l'avenir. Et enfin, dernière caractéristique, la justice sociale est un bien commun à tous et qui a pour but de sauvegarder tous les droits, c'est-à-dire aussi bien ceux du capital que ceux du travail. Et Fouillet met longuement en garde dans son article contre les dangers d'une intervention excessive de l'État qui tout à la fois ruinerait l'efficacité de son action et empiéterait indûment sur les libertés individuelles. Alors, voilà, j'ai essayé de résumer à grands traits cet article Princeps sur la justice sociale. C'est un article séminal à plus d'un titre. D'abord parce qu'on y trouve déjà les bases théoriques de l'idée de justice sociale telle qu'elle a été consacrée par la Constitution de l'OIT en 1919, nous y reviendrons, puis réitérée dans la Déclaration de Philadelphie en 1944 et mise en œuvre dans la plupart des démocraties occidentales sous l'égide de ce que, selon les cultures juridiques, on en a appelé le « welfare state », le « social staat » ou l'État « providence ». Il y a plus qu'une nuance dans ces notions. « Welfare », dans l'esprit d'un Américain, ça évoque quand même, c'est plus du côté de l'assistance. C'est l'assistance sociale, le « welfare ». Il y a un très beau film de Frédéric Wiseman. Wiseman est le grand citoyen. Il avait commencé comme prof de droit et il m'a dit un jour, je m'ennuyais tellement, les gens écrivent si mal dans les facs de droit, je me suis fait cinéaste. Mais en réalité, il a passé sa vie à filmer les institutions. Donc c'est et un de ses films s'appelle Welfare, il y en a un autre, Housing, c'est sur le droit au logement. Ce sont des choses tout à fait intéressantes. Mais Welfare, c'est dans les... On fait du bien aux pauvres. C'est pas le même modèle que l'idée de l'État-providence ou que le social-staat. Bon, enfin, j'ai pas le temps de m'attarder trop là-dessus. Enfin, c'est vous dire la fécondité des idées qui sont émises à ce moment-là. L'autre intérêt de ce texte, c'est qu'on y trouve déjà tous les termes des débats sur la justice sociale qui se sont déployés depuis la fin du XIXe siècle jusque à la conversion des régimes communistes à l'idéologie libérale. Et c'est une conversion que l'on peut dater, me semble-t-il, non pas du mur de Berlin, mais presque 10 ans plus tôt, des réformes introduites par Deng Xiaoping en Chine à partir de 1979, et puis qui sont ensuite développées en Europe centrale et orientale, et couronnées par l'effondrement de l'Empire soviétique. Et cette conversion des régimes communistes aux vertus de l'économie de marché a marqué les retrouvailles des deux formes de ce que Fouillet appelait l'économisme naturaliste. Et c'est ces retrouvailles qui ont donné naissance à l'ultralibéralisme contemporain, mettant sur la défensive la voie moyenne de la justice sociale qui a été poursuivie par les pays d'Europe occidentale. Et tout spécialement le modèle social français, puisque ce modèle français était défini par opposition au naturalisme social dans ses deux formes, individualiste et collectiviste. C'est pourquoi il semble avoir été complètement perdu de vue aujourd'hui par les dirigeants politiques et économiques qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, se tournent tour à tour vers le modèle anglo-américain et vers le modèle allemand, sans jamais reprendre pied sur les fondements théoriques de la République sociale pour la faire évoluer, bien entendu, pas pour en faire un objet de musée. Mais on peut penser que c'est en s'appuyant sur le meilleur d'une tradition que l'on peut s'ouvrir les voies de l'avenir. Or, ce qui est très frappant dans la situation actuelle, c'est que justement, il semble qu'il y ait eu une impasse, il n'y a pas une prise de conscience nette de ce qui faisait la spécificité de ce modèle. Et à partir de là, on ne peut pas le faire vivre. On se met à vouloir importer des recettes avec un usage du droit comparé qui est un usage assez sauvage, d'ailleurs, parce qu'on picore ce qui intéresse en décontextualisant, en disant on va faire comme l'Allemagne pour ceci, on va faire comme... Bon, enfin bref, on ne va pas faire un cours de droit comparé ici, on n'a pas le temps. Alors, à partir de ce tournant des années 80, qui est aussi celui de la généralisation du libre-échange et de l'effacement progressif des frontières du commerce, le démantèlement des institutions fondées sur l'idée de justice sociale est devenu la priorité de nombreux dirigeants politiques et économiques, d'abord aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis aujourd'hui dans l'Union européenne. Et l'argumentaire mobilisé pour justifier cette remise en cause se situe dans le droit fil de ce que Fouillet appelait le naturalisme individualiste. Par exemple, c'est clair chez Hayek, qui écrit que la justice sociale est un fantasme inspiré, je cite, par une nostalgie nous rattachant aux traditions du groupe humain des origines, mais qui a perdu toute signification dans la société ouverte des hommes libres. Fin de citation. Alors, au regard de la longue histoire du droit et des institutions, l'idée de faire disparaître la question de la justice sociale de l'horizon politique paraît imprudente. Enfin, ça ne paraît pas réaliste en réalité. Et c'est dangereux. Parce que lorsqu'elle est niée ou bafouée, l'aspiration à la justice ressurgit sous des formes qui sont rarement raisonnées et polissées. C'est un motto que nous retrouverons ensuite dans la constitution de l'OIT en 1919, il n'est pas de paix durable sans justice sociale. C'est ça que ça veut dire. Si vous n'avez pas un minimum de justice, vous n'aurez pas la paix. Vous allez avoir il y aura de la violence. Et depuis la crise financière de 2008, le nombre des vrais croyants dans l'avenir radieux de la grande société ouverte s'est tout de même restreint. Et on peut penser que, loin de disparaître, l'aspiration à la justice sociale ne cesse de susciter aujourd'hui des débats théoriques dont nous allons maintenant prendre un bref aperçu. Donc là, mon examen un peu généalogique de la notion de justice sociale étant achevé, on va essayer de dresser une sorte de typologie de qu'est-ce qu'il y a sous ce mot, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot aujourd'hui. Et on peut y mettre trois choses. Il y a trois dimensions de la justice sociale qui interagissent. Dans les débats que j'ai évoqués de la fin du 19e, on peut dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale, la justice sociale est essentiellement référée aux questions de répartition des richesses, d'une juste répartition des biens. Elle conserve ce sens, mais un autre sens a été développé à la fois dans des théories, des écrits théoriques que je vais évoquer, mais aussi dans des pratiques juridiques que, elles, je n'évoquerai pas, parce qu'on n'a pas le temps. Et cet autre sens, c'est de dire qu'il ne se suffit pas de répartir justement les biens, il faut aussi procéder à une juste reconnaissance des personnes. L'égale dignité des personnes ne veut pas dire simplement qu'on leur donne à tous des moyens de survivre, mais qu'on reconnaît à chacun son identité propre et sans hiérarchisation de ses identités. Alors ça, ce sont les sens nouveaux de ce qu'on peut appeler une justice recognitive. Et ainsi focalisé sur la dichotomie de l'avoir et de l'être, ces débats contemporains ont en revanche maintenu dans l'ombre une troisième dimension de la justice sociale, qui est celle de l'agir. Et cette dimension était pourtant présente dans la Déclaration de Philadelphie, qui compte au nombre des droits fondamentaux des travailleurs, je cite, « celui d'avoir la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer au bien-être commun. » Donc là, on n'est ni dans la reconnaissance de l'identité, parce qu'il faut que les femmes, les populations jadis, les cultures minoritaires cessent d'être maltraitées ou comme des citoyens de seconde zone, ça c'est des questions de justice sociale recognitive, ni dans la simple distribution des biens où il faut que chacun ait un emploi, puis peu importe au fond en quoi consiste cet emploi. Cette formule intéresse le contenu même des tâches de chacun. Chacun doit dans sa vie, pouvoir faire l'expérience de mettre en œuvre son habileté et de contribuer ainsi au bien-être commun. Alors, c'est ça la troisième dimension qu'on évoquera. Alors, la période contemporaine, pour le dire à grands traits, a été marquée par une régression de l'idée de justice distributive. Je peux même dire que j'avais cité plusieurs reprises, M. Draghi en a signé l'acte de décès dans un interview il y a 2 ans, il a dit c'est fini le modèle social européen. Bon. La partie est terminée. Bon. Donc, régression de l'idée de justice distributive, une exacerbation corrélative de l'idée de justice recognitive, donc la demande de reconnaissance de groupes, d'identité collective est foisonnante. Et troisième caractéristique, un refoulement persistant de l'idée de juste réalisation de soi. Alors, c'est une idée qui est déjà présente chez Hegel, hein, le travail comme lieu d'une juste réalisation de soi. Et pourtant, on peut penser que cette idée est la seule à même de dépasser une opposition entre l'avoir et l'être. Alors, je vais reprendre chacun de ces aspects successivement. Et donc, on va commencer par le plus classique, le mieux connu, c'est-à-dire la justice sociale comme juste répartition des biens. Jusqu'à une période récente, cette question de la juste distribution des richesses n'a guère été posée que dans des cadres sociaux ou territoriaux limités. Nous avons vu dans les textes fondateurs, que ce soit ceux de la doctrine sociale de l'Église ou de Fouillé, ce qu'on a en tête, c'est une intervention de l'État, c'est-à-dire de l'État-nation inscrit sur un territoire. C'est ça l'échelle de réalisation de la justice sociale. On ne se pose pas de la question de la justice sociale internationale, qui est l'objet de ce cours. Bon. Donc, la réalisation d'une justice sociale à l'échelle du monde est demeurée un idéal de type religieux. Et tout juste s'étant efforcé, sans grand succès du reste à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de concevoir un cadre international propre à promouvoir la coopération des États dans leurs efforts respectifs de mise en œuvre des droits sociaux. Alors nous reviendrons longuement sur ces efforts juridiques ultérieurement. Au plan juridique, l'État social, puisqu'il s'est défini nationalement, je l'ai dit tout à l'heure en disant qu'il ne s'appelle même pas de la même façon, Sozialstaat ou Welfare State, ce n'est pas une figure homogène, c'est plutôt un kaléidoscope de modèles nationaux qui sont ancrés chacun dans une histoire et une culture particulière. La façon de penser la justice sociale, de l'organiser, de la mettre en œuvre, ça ne marche pas de la même façon, ça n'a pas marché de la même façon dans les pays nordiques, en Allemagne, en Angleterre ou en France, pour maintenir au cas, ou aux États-Unis, pour maintenir au cas des pays occidentaux. Nous viendrons plus tard sur d'autres civilisations, parce que la chair, c'est mondialisation, donc il ne faut pas s'en tenir à ces modèles, à la façon de penser la justice sociale propre à l'Europe. Donc j'aurai l'occasion d'ouvrir quelques fenêtre sur ce qui peut se. La façon dont c'est pensé ailleurs. Donc, une théorie sociale digne de ce nom, de la justice sociale, pardon, digne de ce nom, supposerait aujourd'hui, si on veut faire une théorie en général, il faut partir de l'observation, puis on observe les pratiques, puis à partir de ça, on essaie de théoriser les pratiques. Et dans le cas du droit, c'est un exercice de droit comparé. On étudie les différents modèles, on voit ce qu'ils ont en commun, sur quoi ils diffèrent, on essaie de rapprocher ça des éléments de contexte historique, sociologique et culturel, c'est ça le travail des juristes normalement. Mais ce n'est pas cette voie qui a été généralement empruntée, d'ailleurs je vous ai dit que ce ne sont pas les juristes qui sont les auteurs des grandes théories de la justice, ils s'en sont totalement désintéressés. Ce sont des philosophes et des économistes. Et leur démarche, le plus souvent, a été normative, c'est de façon étrange. C'est-à-dire, ça a consisté à poser des principes de justice à vocation universelle sans se référer du tout à l'expérience contemporaine de l'État social. Et il est frappant de voir que ces théories de la justice sociale ont fleuri, surtout aux États-Unis, qui est un pays qui a été le berceau du welfare state, mais où l'État social est demeuré embryonnaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui soulève aujourd'hui encore des réactions d'hostilité politique d'une violence qu'on a peine à comprendre. Enfin, si vous reprenez les débats sur l'Obamacare, la violence des conflits politiques autour de ça, montre que la notion d'État social n'est pas vraiment ancrée dans l'expérience américaine. Et pourtant, c'est là qu'on a les grandes théories de la justice sociale. Bon, il y a eu, et il y a toujours évidemment, tout un pan de la réflexion théorique qui s'est attaché à démolir l'idée de justice sociale, à la critiquer, et pour développer cette critique, deux raisons ont été avancées principalement, qui se combinent souvent chez les mêmes auteurs. D'abord, une raison philosophique, qui est la foi dans l'absolue souveraineté de l'individu. On trouve ça à l'état chimiquement pur, presque, dans la doctrine dite libertarienne, qui condamne tout empiètement de l'État ou de la collectivité sur les droits des individus et qui promeut une sorte d'anarcho-capitalisme à l'échelle de la planète. Ça, c'est la raison philosophique. Et puis, il y a une raison économique ensuite, qu'on a déjà évoquée longuement, donc je ne m'y attarde pas, c'est la croyance dans l'existence selon laquelle les forces du marché engendrent un ordre spontané qui se régule lui-même et réalise la plus grande justice possible. C'est en fait la sécularisation de ce que disait Calvin, bon, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a un ordre... Alors, il n'est plus transcendant, il est immanent, mais c'est le même qui est... Et donc, il faut obéir à cet ordre, et si on cherche à le contrarier, eh bien, on va avoir de nombreux effets pervers. Donc, on a longuement étudié ces doctrines et leur prolongement juridique durant ces deux dernières années, donc ce n'est pas la peine d'y revenir ici. Mais face à ces doctrines qui dénient toute pertinence à l'idée de justice sociale, de nombreux auteurs se sont efforcés d'asseoir cette dernière sur une base théorique solide. Mais ils l'ont fait le plus souvent, alors je vais parler de Rawls un petit peu, pas trop, mais un petit peu, parce qu'il est incontournable sur ce sujet. Et ce qui est très frappant, c'est que chez Rawls, mais comme beaucoup d'autres qui l'ont suivi, ils se sont placés sur le terrain même où se plaçaient leurs adversaires. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une méthode conséquentialiste qui consiste à faire dépendre la légitimité d'une règle de l'utilité escomptée de son application. C'est toujours un calcul d'utilité qui est mis au cœur du raisonnement et de la théorie de la justice. Et il me semble que la plus grande victoire des adversaires de la justice sociale est en réalité d'être parvenus à banaliser ce recours au calcul d'utilité et à disqualifier par là même l'idée d'un impératif catégorique attaché à la dignité humaine. Alors, sur ce terrain du calcul d'utilité, c'est bien sûr l'idée de contrat social qui a été mobilisée pour fonder en raison les devoirs réciproques des individus. Alors, cette idée n'a rien de neuf, puisqu'elle remonte au moins à Hobbes et Rousseau, mais elle a été reformulée. Alors, elle a été reformulée, nous l'avons vu, dans les doctrines solidaristes de la fin du XIXe siècle, avec par exemple le quasi-contrat de Léon Bourgeois. Et tel un phénix, elle a connu à la fin du XXe siècle de nouveaux avatars, dont le plus fameux est justement la théorie de la justice de John Rawls. Alors, l'œuvre de Rawls est évidemment très célèbre. Elle a suscité des tonnes de commentaires, si bien qu'on hésite même à la résumer. Enfin, d'expérience, je sais que si on présume les choses comme connues de tous, c'est un pari un peu risqué. Donc, je vais en dire le minimum pour que vous remettre ça en tête. Alors, d'abord, une chose qui frappe dès qu'on lit Rawls, si vous regardez la bibliographie, il ignore totalement les théories politiques qui, un siècle avant lui, avaient réactivé l'idée de justice et l'idée de contrat social pour repenser la justice dans le contexte du monde industriel. Une ignorance radicale. Il n'a rien lu de ce qui s'est écrit. Donc, et ça, c'est un petit peu le sorte de provincialisme intellectuel auquel conduit les situations impériales. C'est-à-dire que au fond, les empires conduisent à une sorte d'autisme quand on est dans un impérialisme. Enfin, c'est très excessif de parler d'impérialisme à propos de Rawls, mais il est dans un système de référence qui, globalement, est celui de la pensée anglo-américaine et avec peu de culture historique. Par exemple, avant Fouillé, qui proposait de voir dans les sociétés humaines des organismes contractuels, il y a eu Léon Bourgeois, qui fondait la solidarité sur un quasi-contrat, dont il disait que ce n'est pas autre chose qu'un contrat rétroactivement consenti, ou bien Proudhon, qui écrivait « Il faut supprimer tout ce qui reste de droit divin dans le gouvernement de la société et rebâtir l'édifice sur l'idée humaine de contrat. Bon. » Donc ce n'est pas neuf, hein, de dire j'essaie de repenser un contrat originel qui serait une sorte de Big Bang. Alors, Rawls ressuscite cette fiction d'une position originelle dans laquelle un individu abstrait, n'importe lequel d'entre nous, opère sur ce qu'il appelle le voile d'ignorance, c'est-à-dire vous ne savez pas ce qui va devenir de vous dans le monde que vous êtes en train de concevoir, et vous devez calculer des règles de répartition des biens qui vous seraient en toutes circonstances les moins défavorables. C'est ça le point de départ, c'est ça la trouvaille de Rawls, c'est-à-dire ça part sur un individu calculateur à qui on propose de concevoir le monde le plus juste possible sans qu'il sache la position qu'il occupera dans ce monde. C'est le voile d'ignorance. Ça a beaucoup séduit, c'est une idée intéressante. Et se mettant lui-même dans cette position, un peu comme Descartes dans son poêle qui commence à chercher au fond de lui-même en quoi il peut croire, il déduit deux principes. Un principe de liberté, en vertu duquel toute personne a droit à l'ensemble le plus étendu de liberté individuelle compatible avec le même ensemble de liberté pour tous. Donc il dit, si je réfléchis à cette société, etc., en me demandant, je voudrais que tous les individus de cette société aient le maximum de liberté. Et deuxième principe, un principe de différence, en vertu duquel les inégalités sociales sont légitimes, mais à la double condition de fonctionner au bénéfice du plus grand nombre et d'être attaché à des dispositions ouvertes à tous dans des conditions d'égalité des chances. Donc, il y a un double critère de légitimité des différences de conditions économiques. Le premier, c'est que, in fine, ces différences doivent profiter au bien commun, parce que si on voulait établir un égalitarisme complet, tout le monde, la société fonctionnerait très mal. Et puis, deuxième chose, c'est que ces positions, les positions les plus élevées, soient ouvertes à tous. Que ce ne soit pas un système de caste, que ce soit réservé à certains. Voilà, brièvement résumé, la théorie de Rawls. Et je vois que l'Angélus sonne. Donc, on continuera la semaine prochaine. Merci de votre patience et de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.